Je sous-signais Arthur Rimbaud, né à Charleville, France.
J'écrivais des silences, je fixais des vertiges.
Un été avec Rimbaud, l'éternité.
C'est la mer, aller avec le soleil.
Par Sylvain Tesson de Saint-Denis.
Fuir là-bas, fuir.
Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud.
Michel Piccoli lit un poème de René Char.
Tu as eu raison d'abandonner le boulevard des paresseux, les estaminets d'épices lyres, pour l'enfer des bêtes, pour le commerce des rusés et le bonjour des simples.
Savoir où s'établir sur cette terre est la grande question de l'homme. Quand on y a répondu, une part du mystère de l'existence est résolue. La vie de Rimbaud ressemble à une errance, à la recherche d'un soleil, enfin amical à son ombre. À partir de 1875, Rimbaud cherche sa place sur la terre. Madame Karen Blixen, sous l'auvent de sa ferme africaine, avait dit « J'étais là où je me devais d'être ». Eh bien, Rimbaud n'écrira jamais ce genre de définition du bonheur. L'homme aux semelles de vent s'est auto-condamné au mouvement. Il a contracté la dromomanie, qui est le nom de la pathologie du mouvement, dont les vagabonds de la vie tentent de calmer les accès en prenant la route indéfiniment. La dromomanie, on en meurt ou on en devient stupide. Je sais de quoi je parle, je l'ai eu. En mars 1875, Arthur rompt et raccroche. Il ne verra plus Verlaine, il ne s'occupera plus de littérature, l'épilepsie poétique est terminée. Commence 4 années de voyage erratique, sur les terres et sur les mers. Rêver, s'en aller, échouer, repartir, tel sera le solfège de Rimbaud.
Fuir. Là-bas, fuir.
Prescrira Mallarmé en 1893. Eh bien, Rimbaud a pris Mallarmé au pied de la lettre et avant l'heure. Où pouvait se trouver le là-bas de Rimbaud? Dans les Ardennes? Non. Trop de naphtaline dans les mâles de famille. À Paris? Non. La ville est peuplée de bourgeois qui se croient des poètes. À Londres? Non. Sans Verlaine, cela aurait été de la verveine. Alors Rimbaud pousse plus loin. Il part en Allemagne, en Italie, en Égypte, à Java, à Chypre. Ah, il ne s'agit pas d'aimables séjours. Les voyages finissent toujours au poste de police ou à l'hôpital. Rimbaud voyageur, c'est Arthur l'embrouille. Il n'atteint jamais son but parce qu'il le dépasse toujours. Quelle erreur de s'en aller pour se guérir.
Monsieur Bardet, j'ai appris que vous cherchez quelqu'un pour jusqu'au Harare.
En 1880, il gagne enfin Aden. Là, il va signer un contrat qui déterminera les 10 dernières années de sa vie.
Vous savez parler l'arabe?
Entre autres, oui.
Vous savez monter à cheval?
Oui.
Bon, je vous engage. 150 roupies par mois, plus 1% sur les bénéfices.
Il devient négociant de l'entreprise d'import-export Mazran, Vianney, Bardet et compagnie.
Il est engagé pour surveiller le tri du café.
Jean-Jacques Lefrère. Biographe.
Et c'était son premier travail véritable, comme ça. Et donc, on imagine cet ancien poète, comme ça, parlant quelques mots d'arabe et donnant des ordres à des trieuses de café.
Il dirigera plus tard la succursale Bardet à Harar, au cœur de l'Abyssinie. Et plus tard encore, il vendra des fusils pour armer la conquête de l'empereur Ménélique. Contre la dilution du temps dans la négation de l'espace, Rimbaud opposera sa seule arme. La résignation.
Aden, 30 avril 1891.
Le courrier entretenu avec sa famille et ses correspondants constitue l'autobiographie d'Arthur.
Ma chère maman.
Cette correspondance est un labour. Toujours à contre-temps, elle vibre du même lamento. La vie est atroce, l'Harare est un néant, l'homme un butor, le labeur une souffrance, l'ennui constant, une seule issue acceptée. Le voyant qui se voulait rentier et absolument moderne est dégrisé. Le bateau ivre dessoule.
Je retiendrai surtout cette lettre qu'il écrit à sa mère lorsqu'il est à Aden.
Alain Borère, biographe.
À Aden, il dit que pas un brin d'herbe ne pousse dans cette ville écrasée de soleil, et il compare Aden à un cratère. Alors manifestement, ce qui se profile derrière l'image du cratère, c'est l'image de l'enfer. Et tout se passe comme si Rimbaud vivait dans le réel, dans sa vie, dans son corps, s'il vivait vraiment sa saison en enfer.
Pour moi, je compte quitter prochainement cette ville pour aller trafiquer ou explorer à mon compte dans l'inconnu, écrit-il dans une lettre à sa famille en mai 1881. L'inconnu, enfin, il en est au seuil. En sera-t-il heureux pour autant? À vrai dire, le bonheur, ce n'est pas tellement une question rimbaldienne.